Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est...
Daniel Bravo, bonjour à tous, salut Darren.
Bravo, bravo Daniel.
Hello my friend.
Hello, hello, ravi de t'avoir avec nous. Daniel, j'ai la chance de bosser avec toi depuis quelques années, on a fait pas mal de matchs ensemble avec Bein Sport. Tu en as vu et commenté beaucoup, beaucoup de matchs de foot et tu en as joué 800 peut-être dans ta carrière pro. À quel point donc ça a été difficile pour toi de ne choisir que 5 matchs?
Finalement, ça n'a pas été si dur que ça. Bon, je ne me suis pas trop creusé la tête. Ce sont des matchs qui sont venus comme une évidence parce que j'y repensais un peu à mes débuts et chronologiquement, quelques dates très importantes qui sont peut-être plus marquantes que d'autres.
Avec quelques buts à raconter, j'ai vu sur ta liste, donc sans plus attendre, c'est parti. Pour les matchs de la vie de Daniel Bravo, match numéro 1, Daniel, quel est ton choix et pour quelle raison?
Alors, le premier, c'est le tournoi de Cannes Junior, équipe de France Junior. Je devais avoir 16 ans et demi et je venais d'arriver à Nice, je jouais en 3e division et j'ai été sélectionné avec Michel Derzakarian, Laurent Paganelli, Christian Pérez et d'autres, Jean-Marc Ferreri, voilà, je vais pas tous les citer, mais on a fait un super tournoi et en finale on a battu l'Italie 5-0 et j'ai eu la chance de marquer un très joli but en ciseaux du pied gauche en finale. L'Italie, il y avait Bergomi qui a été peu de temps après
défenseur.
Champion du monde en 82, donc c'était la même année, l'été suivant, enfin je ne sais pas exactement, mais il a été champion du monde avec l'Italie. Donc ça veut dire qu'il y avait un niveau quand même en Italie, mais on leur a mis 5-0 et j'ai été élu meilleur joueur du tournoi, donc ça reste ce tournoi-là, plus ce but quand même qui a fait beaucoup parler, qui était assez spectaculaire. Voilà, ça reste le début de ma carrière qui a commencé assez fort par ça surtout, quoi.
C'est un déclic en quelque sorte de faire tes preuves à ce niveau-là aussi.
Ouais, le déclic, surtout me faire connaître. Je me rappelle, on était passé avec Fabrice Poulain à Téléfoot.
Ah oui.
Et déjà à cet âge-là, Téléfoot, ça représentait beaucoup. Je me rappelle, il y a des images où je suis... très timide, où je dis j'ai toujours voulu être joueur de foot professionnel. J'ai dit je viens de Toulouse, un petit village à côté de un petit village Cugnot à côté de Toulouse. Voilà, c'était rigolo. C'est le début, mais qui part assez fort parce que cette équipe-là et ce tournoi-là, ça a fait parler vraiment de nous. Et en même temps, je jouais en 3e division, la réserve du club pro de Nice, où j'ai quand même mis, je crois, 12 buts dans la saison, où je suis parti quand même assez fort. Voilà, puisque après, j'ai quand même été, l'année d'après, je jouais déjà en professionnel, quoi.
Effectivement, on va y revenir à Nice dans quelques instants, mais revenons sur tes débuts. Tu es né le 9 février 1963 à Toulouse, donc. Quels sont tes premiers souvenirs de foot, Daniel?
Mes premiers souvenirs de foot, c'est jouer au ballon avec mon frère et beaucoup autour des terrains, parce que mon papa était joueur aussi, lui, de très bon joueur amateur jusqu'à CFA à l'époque, 3e division ou National 3 aujourd'hui. National, pardon, aujourd'hui. Voilà, ils nous emmenaient partout. Et nous, on jouait, on ne regardait pas trop le match. On jouait derrière, à côté. On trouvait toujours un mur pour taper. Enfin, on jouait tout le temps. Et voilà, le souvenir surtout de jouer beaucoup avec mon frère. Et puis les matchs, dès qu'on a 6 ans, on a joué à Cugnot, à la JS Cugnot. Voilà, les matchs de petits avec les accompagnateurs, les bénévoles, où tu pars en voiture avec les sandwichs, tout ça. Voilà, ça, c'est les souvenirs classiques, mais qui restent gravés à jamais.
Ton papa joueur et aussi coach quand tu es petit, non?
Ouais, coach, parce qu'il a aussi été mon entraîneur. Bon, c'est vrai que je dis souvent, si j'ai réussi, c'est grâce à lui, parce que la base, c'est lui qui me l'a donnée. Hein. On travaillait beaucoup techniquement en dehors des entraînements avec lui. Et aussi, ça, il a été mon entraîneur en cadets nationaux, parce qu'avec Cugnot, on a réussi à jouer le championnat cadet nationaux, ce qui est pas mal quand même, parce que Cugnot, à l'époque, c'était 10 000 habitants, tu vois, c'était presque un village, quoi, une petite ville. On était quand même cadets nationaux, on a été un peu partout en France. Voilà, on avait une super équipe et mon papa était entraîneur et ça se passait super bien.
Un mot sur ton papa, alors. José, son prénom, ouais. Né en Espagne, en Catalogne.
Exactement, ouais, catalan, né en Espagne, venu en France alors qu'il était enfant pendant la guerre civile parce que voilà, il y avait Franco et les idées politiques de mon grand-père étaient opposées à celles de Franco. Et donc, ils ont dû partir pour ne pas être ou emprisonnés ou tués. Et mon père m'a raconté que son papa, mon grand-père, est parti avant. Et il s'est retrouvé, je crois, dans un camp près de Montpellier. Et ma grand-mère, avec ses deux enfants, sont partis à pied avec les valises, comme ça. Voilà. Se sont déplacés comme ils pouvaient. Et se sont retrouvés dans la région toulousaine. Et je crois qu'ils ont retrouvé leur papa, peut-être un an après. Ils ne savaient pas où il était. Et donc, voilà, cette histoire est assez, assez extraordinaire. Mais bon, pour survivre, il a fallu partir. Et donc, la suite s'est faite en France. Waouh,
sacrée histoire. C'est vrai, ton papa, il te parlait de ça, ton papa ? Enfin, quand tu es jeune, peut-être tu...
Pas trop. Pas moment, en fait, tard, ce qui est étrange, c'est que même mon père, j'ai toujours dit, mais pourquoi tu ne nous as pas parlé espagnol ? Il parlait couramment espagnol et catalan. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as parlé ? Je faisais espagnol en classe. Oui. Et mon père, il ne me parlait jamais espagnol, alors qu'il aurait pu me permettre d'être bilingue, quoi. Mais en fait, c'était une époque où il fallait cacher, justement, que tu étais espagnol et montrer que tu parlais bien français.
Que tu étais dans l'assimilation, oui.
Ouais, c'est-à-dire que nous, il nous a pas parlé de tout, très peu de ce passage-là de sa vie. Il était très petit, il faut reconnaître que lui, il ne l'a pas vécu comme un traumatisme parce qu'il était plus petit que son frère, il devait avoir 6 ans, un truc comme ça. Et en fait, il a pas trop souffert de ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas été très loquace sur cette histoire-là.
Tu as dit un frère, vous étiez combien à la
maison ? Oui, un frère de 15 mois de plus que moi, voilà, qui a toujours travaillé à l'AFP depuis ses 20 ans et qui est encore... qui est journaliste, et Philippe, qui malheureusement pour lui s'est blessé quand il était gamin, il doit avoir 15 ans. Il a eu dans un geste, il s'est fait mal au genou, il a été opéré trop tôt alors qu'il était en pleine croissance, il a eu le genou abîmé et il a dû arrêter sa carrière, il n'a pas pu continuer parce qu'il avait mal au genou. Voilà, ça a été un grand traumatisme parce qu'en plus, il a vu son frère faire ce qu'il voulait faire et ce qu'il aimait. Et ça, je pense que ça a été très dur pour lui, même s'il m'a toujours soutenu, accompagné avec beaucoup d'amour et d'affection. Voilà, ça aussi pour moi, ça a été dur de voir que j'aurais aimé partager ça avec mon frère, comme les frères Thuram, par exemple. Oui. Ça doit être magique, quoi, de faire la même chose, faire ce qu'on aime et de pouvoir échanger là-dessus. Pour le papa aussi, hein, parce que voilà, Lilian, je sais qu'il est fou de ce qui lui arrive et il va beaucoup sur les terrains voir ses fils jouer. Oui. Moi, mon papa, il a eu un joueur qui a réalisé son rêve, un fils et l'autre, malheureusement, qui a galéré un peu et qui a pu quand même, dans le journalisme, faire quand même quelque chose qui était super.
Ah bah c'est déjà pas mal. Ouais. Et maman, alors, dans cette histoire ?
Maman... la maman rêvée, je dirais, qui fait tout pour ses enfants. On a eu une enfance très heureuse. En plus, on a eu un bar. Justement, c'est ma mère qui tenait le bar pendant 9 ans à Cugnot. C'était le siège des boules, le siège du foot. Donc, les soirées pour fêter des victoires, aussi pour les moments de tristesse. Enfin, on vivait tout. C'était comme une grande famille, les concours de boules, de pétanque. Voilà, j'étais vraiment une enfance rêvée, quoi, où on était toujours dehors, on jouait au boule, on faisait du vélo, on jouait au foot, toujours le ballon dans les
pieds.
Donc
la famille était au cœur de la vie sociale, quoi, en fait.
Ouais, on était une famille très connue. Même notre chien qui se baladait dans Cugnot nous disait « j'ai vu Flip, il était au stade tout à l'heure ». Enfin, c'était incroyable. Voilà, un petit village où on était un peu au cœur de ce qui se passait et c'était très convivial parce qu'il y avait aussi les lotos. Les lotos l'hiver avec les... On gagnait des jambons, des filets garnis, tout ça. Et ça se passait au bar. On jouait avec le maïs. C'était des moments fantastiques qui laissent vraiment un souvenir d'une enfance très heureuse.
À quel moment, Daniel, donc on vient de parler de ton premier match à 16 ans et demi, mais à quel moment tu as compris ou dans la famille on a compris que tu avais peut-être une carrière dans le foot?
Ben quand beaucoup de clubs ont demandé à mes parents qui me voulaient, quoi, enfin, leur ont dit qui me voulaient. C'est à partir du moment à Cugnot où j'étais en équipe de France cadet quand même. Cadet, c'est 15 ans, tout comme ça. Et j'étais aussi au lycée. C'était la première année qu'il y avait le sport-études à Toulouse. Donc je jouais le week-end avec un cadet nationaux et la semaine j'étais au lycée sport-études, donc je m'entraînais tous les soirs. Et là j'étais déjà en équipe de France cadet. Donc c'est là où tout s'est déclenché. Et où j'ai eu beaucoup de demandes. Il y avait Bordeaux, il y avait Strasbourg, il y avait Auxerre, il y avait Nantes, il y avait Nice. J'avais beaucoup de clubs. Et les seuls qui se sont déplacés, c'est l'entraîneur de Nice. Mince, son nom m'échappe. Hein, mince. Il est venu carrément à Cugnot.
D'accord.
Voir mes parents. Et ça a fait la différence parce que déjà, il a montré toute son envie de m'avoir. Et moi, j'avoue que j'aimais l'équipe de Nice avec Guillou, Huc, Jouve, tout ça. Cette équipe Bjekovic qui m'a fait rêver parce que ça jouait vraiment au ballon. Et il y avait la mer aussi. Moi, à Toulouse, il n'y a jamais eu la mer. Enfin, oui, il n'y a pas la mer. Et j'ai toujours adoré la mer. Donc, j'ai dit, il y a la mer. Il y a une équipe qui joue au ballon.
Le coach qui me veut.
Et voilà, ils me veulent. Et j'ai dit, allez, on y va.
C'est parti pour
Nice. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'entraîneur. C'était l'entraîneur des pros à l'époque qui carrément s'est déplacé.
Ça va nous revenir peut-être. Allez, on avance sur le match numéro 2 maintenant, Daniel. Nous sommes le 23 février 1982 désormais. Et l'équipe de France, les grands, les A, comme on dit, joue contre l'Italie au Parc des Princes. C'est un match amical. Tu as 19 ans et 14 jours pour être précis. Et tu t'apprêtes à jouer pour la première fois avec les grands. Comment ça se passe?
Ben, au départ, c'est bizarre hein, parce que j'arrive là. Je me rappelle, il y a une anecdote rigolote. C'est qu'on s'est fait éliminer juste avant avec Nice à Grasse en Coupe de France. Et que je me rappelle être monté, mon père était là ce jour-là, et il m'a ramené à Nice, je pense. Et il m'a dit, ben, si tu veux être en équipe de France en jouant comme ça, tu vas attendre, il me dit comme ça.
Ah oui. Ouais.
On avait été mauvais, moi j'avais été mauvais, mais bon, j'ai le souvenir d'un match où on avait joué sur un terrain injouable, enfin bref, éliminé par Grasse.
Oui.
Et mon père me dit ça, et peut-être quelques jours après, la liste tombe et je suis sélectionné. Donc, c'est bizarre.
Comme quoi.
Et ben, je me souviens que j'arrive à jouer en Josas. C'était à jouer en Josas à l'époque, le rassemblement. Et je me rappelle très bien arriver comme si j'arrivais comme un supporter qui arrive là pour faire signer des autographes, quoi. Platini, il y avait Marius Trésor encore,
oui,
Baratelli, Gires, Tigana,
enfin, Amoros, voilà. Michel Hidalgo.
Et première sélection d'Amoros, on est ensemble, première sélection d'Amoros, Michel Hidalgo entraîneur.
Oui.
Et voilà, j'arrive comme ça. Je
impressionné.
Assez impressionné et en même temps l'insouciance jamais je me suis dit, je ne suis pas à ma place, jamais. Je suis arrivé... bien dans mes baskets et tout. J'ai le souvenir de Jean Vion qui m'avait chambré. On avait été boire le café après le repas. Et il me dit, combien tu gagnes, Daniel? Et je lui dis, moi, tranquille, je lui dis ce que je gagnais. Je gagnais de quoi m'acheter un petit jean, aller au restaurant une fois dans le mois. Et il commence à rigoler. Il y avait des joueurs qui jouaient aux cartes. Il se tourne, il fait, oh, vous savez combien il gagne? Il se foutait de moi. Il rigolait, bon. Mais je n'étais pas pro encore. Donc, voilà, j'étais en équipe de France, je n'étais pas encore professionnel.
Wow.
Et le truc qui est incroyable, c'est que je rentre un quart d'heure. Platini marque, on n'avait pas battu l'Italie depuis plus de 30 ans. Platini marque le premier but. Moi, je rentre le dernier quart d'heure et j'arrive à marquer. Je me rappelle, je frappe entre les jambes de Chiréa, le pauvre qui est disparu, qui est mort tragiquement. Mais je marque un but contre l'Italie. À Bordeaux, ce n'était pas... Zoff, parce que Zoff avait joué la première mi-temps.
Ah.
Et la deuxième mi-temps, c'était Bourdon. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai marqué.
Non, j'ai revu le but. J'ai revu
ouais, il est
but.
Pas mal. Il est pas mal. Je frappe, disons, c'est un vrai but d'attaquant parce que je
frappe pied
gauche entre les jambes de Chiréa. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la meilleure position possible. Au ras du poteau, c'est un joli but. Mais voilà, c'est un but d'attaquant. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit, ouais, tu as trouvé ta place par la suite, plus défensif à Paris, tout ça. Je pense que ce but-là montre qu'au début, j'étais attaquant et que je savais marquer des buts.
Ouais, tu mettais pas mal de buts à cette époque-là. Tu te souviens à qui tu as remplacé pendant le match?
Non.
C'était Didier Six.
Six
juste
ouais.
pour l'histoire.
Ouais,
bah, Platini, Tigana, Gires, Trésor, tous ces grands joueurs. Et tu t'es dit, je suis à ma place, c'est bon.
Avec
la jeunesse.
Ouais, c'est-à-dire, tu sais, j'avais commencé à 17 ans en pro.
Ouais.
Là, pareil, je crois qu'un de mes premiers matchs, on avait joué contre Hambourg en amical. Et l'entraîneur, j'étais sur le banc, il me dit petit, tu veux jouer, tu te sens et tout. Ouais, moi, je me sens. Et je me rappelle que j'étais rentré, j'avais fait un super match. Il y avait Magat en face, il y avait
ouais.
L'avant-centre, là, le, tu sais, l'Allemand, le grand, là, Roubaix.
Oh là, oui.
Ouais, tu vois.
C'est du solide.
Et j'avais fait une super entrée parce qu'à cet âge-là, je crois, quand tu as 17 ans et que bon, j'avais des qualités techniques, j'avais peur de rien. Et cette insouciance-là, elle m'a beaucoup servi au début. Et je dois dire qu'une fois que je me suis un peu rendu compte plus tard, des années après, que là, on est en pro, qu'on te demande des comptes, tout ça, là, j'ai eu un peu comme a eu Paga, je pense, Paganelli, ça a été un peu pareil. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'insouciance et pas l'impression que c'était un métier, en fait. Et quand on te met devant la réalité, qu'on te dit « Non, mais là, tu dois rendre des comptes, tu dois être bon parce que tu es payé pour ça. » Et là, ça te fait drôle parce que on te met devant tes responsabilités et on te fait comprendre que tu es professionnel.
C'est quand même fou que ce deuxième match avec l'équipe de France, tu es quand même encore amateur quand tu joues avec Platini. Et Platini, qu'on connaît, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui aussi quand il était consultant. C'est un sacré chambreux. Il était comment avec toi quand tu arrives en équipe de France?
Ben Platini, il m'a toujours surnommé, même encore maintenant, il me dit « Petit Prince ». Ça le fait rigoler, il me dit « Ça va le Petit Prince ?» Parce que ça a toujours fait rigoler comme surnom comme ça. Et non, mais il a été super, je n'ai pas été couvé du tout. Mais j'ai, franchement, je n'ai pas senti qu'il y avait, une quelconque, pas jalousie, mais... Non, on m'a toujours fait sentir que j'étais à ma place. J'ai jamais eu de problème. Au contraire, les joueurs étaient super sympas avec moi. Mais je n'ai pas non plus senti qu'ils me donnaient beaucoup de conseils. J'étais, franchement, par la suite, je pense que j'aurais attendu un peu plus de conseils de la part de certains parce que j'en avais besoin. Et que j'étais le seul, quand j'étais à Nice, j'étais sélectionné, j'étais le seul niçois, j'étais jeune. Mais au début, un peu l'insouciance, j'arrive comme ça, je défonce les portes et tout. Mais après, tu te rends compte quand même que c'est l'équipe de France et que c'est pas évident. Et là, à ce moment-là, tu te sens un peu esselé. Bon, je parle d'un peu plus tard, quand par exemple, j'ai pas été sélectionné pour l'Espagne en 82, c'est l'été de cette année-là.
Oui, juste après avoir marqué.
Le dernier match... Avant, je suis titulaire, c'est à Lyon. Je suis titulaire et le match est mauvais, on fait 0-0. Mais je n'ai pas le sentiment à ce moment-là d'avoir été tellement aidé parce qu'il y avait beaucoup de Bordelais. Et je trouve ça normal aujourd'hui de dire derrière, ils ont pris Gérard Soler qui joue à Bordeaux, qui a été sélectionné, bon, qui avait l'expérience et qui n'y a rien à redire. Mais quand il y a 7-8 Bordelais... Ils préfèrent qu'il y ait un 9e Bordelais qu'un petit Niçois là, qui a le temps, tu vois. Et d'ailleurs, Hidalgo m'avait écrit une lettre en me disant « Daniel, tu as le temps ». S'il m'a écrit une lettre, c'est que quelque part, il sentait que j'avais peut-être ma place. Mais il m'a dit « Voilà, t'es jeune, ça viendra et attends ton tour, voilà ».
C'est sympa qu'il t'écrit.
Oui, parce que Hidalgo, c'était quelqu'un de très bien, qui m'aimait beaucoup. Et qui me respectait déjà pour m'écrire une lettre, chapeau quand même.
Ouais, voilà. C'est quand même un bon souvenir, ça. D'où ça vient, sûrement, le Petit Prince, alors?
Bon, je ne sais pas, ça commence à Nice. À Nice, franchement, on ne sait pas d'où ça vient, parce que là, on l'a souvent entendu, hein, le petit prince. Aujourd'hui, Griezmann, on l'appelle le petit prince. Voilà, je ne sais pas. Ça a été au début le petit prince du Ré. Et après, ça m'a suivi à Monaco, ça a suivi à... et ça a duré un peu trop, parce qu'après, t'es plus un petit prince, quoi. Ou tu deviens roi, ou tu es roi déchu, ou j'en sais rien. Mais bon, après, c'est vrai qu'à 22 ans, souvent, on disait, les articles, ils commençaient toujours par « Daniel Bravo, l'éternel espoir ».
Ah oui.
Ça, c'était les débuts de tous les articles. Qui était pas voilà, qui m'aidait pas forcément, parce que c'est vrai que j'étais parti tellement fort que quand j'ai eu un coup de mou, ça, tout le monde l'a souligné.
Je vois très bien. Match numéro 3, Daniel. On est le 19 janvier 1986. Tu joues désormais pour l'AS Monaco avec l'entraîneur Lucien Muller et tu as choisi ce match extraordinaire de D1 lorsque Monaco va battre les Girondins d'Aimé Jacquet, avec Giresse et compagnie, double champion de France en titre, par 9-0.
Ouais, ça, c'est incroyable. Je me rappelle que Bernard Lacombe, qui était suspendu, commentait le match ce jour-là. Mais les autres étaient sur le terrain, hein. Il n'y avait pas de turnover. Je me rappelle, il y avait Tigana, il y avait Giresse, il y avait Batiston. Enfin, ils avaient la grosse équipe, Touvenel et compagnie. Et... ce match, c'est en ça que le foot est fou. Mmh. C'est que je crois qu'on a marqué au bout de 3 minutes. La Cuesta, 1 minute.
22 secondes.
Ouais,
monsieur.
Voilà.
Un ballon intercepté par un certain Daniel Bravo.
Ouais.
Déjà, oui, je vous allais voir toutes ces images. Et Félix Cuesta qui marque, oui.
Ouais, voilà. Une action un peu brouillante. Félix, ouais. La Cuesta qui marque d'un pointu. Ouais. Et le match, il commence comme ça. 1-0, ouais. De suite. Bam! Après, on fait un super match. Donc, je crois qu'à la mi-temps, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il y a 2-0. Voilà. 2-0. Et en fait, ce qui lance vraiment le match, c'est que tout début de seconde période, Touvenel marque contre son camp. Et là, à 3-0, là, c'est le feu d'artifice. Eux, ils ne savent plus où ils habitent. Nous, ça joue très bien. Ça part dès qu'on frappait, on marquait. Oui. C'était incroyable. Et je me rappelle, avoir fait un doublé. Je me rappelle que Bellone a fait un doublé. Quadruplé de Genghini.
Oui, seul quadruplé de sa vie, souvent avec des passes décisives de Daniel Bravo. Tu marques un doublé, effectivement, y compris le dernier. Ouais. Et le public, je vois les images.
Oui, il faisait 10.
Oui,
10,
il se scandait 10, 10, 10.
Le public de Monaco s'est réveillé. Je pense qu'à 8, ils se sont réveillés. Et à 9, ils disaient 10, 10, 10. Ouais.
Il y a des jours comme ça, touché par la grâce.
Voilà, c'est un jour, un souvenir exceptionnel. Mais de ce qu'est le football, et je pense que c'est pour ça que le football est autant aimé, c'est que tu peux, le Bordeaux champion en titre s'incline 9-0. Bon, nous, on avait une équipe qui joue au ballon quand ça partait, avec les Genghini, Bellone, il y avait aussi Bijota. Enfin, on avait vraiment une belle équipe.
Amoros, de nouveau.
Amoros, bien sûr. Oui. Et Tori dans les buts. Et c'est vrai que quand ça commençait, d'ailleurs, il y avait même Yvon Leroux, je crois. Et Yvon, il m'a avoué en fin de carrière, il m'a dit, Daniel, j'ai joué à l'OM, j'ai joué dans des grands clubs et tout. L'équipe qui jouait le mieux au ballon, c'était le Monaco. Donc, c'était fou. Et ce jour-là, c'était parti en feu d'artifice.
Assez extraordinaire. Et j'ai vu qu'Alain Giresse, en riait jaune, il en riait jaune des années après, il disait qu'il détient le record de nombre de coups d'envoi effectués, avec 10 dans le match.
Elle est pas mal, celle-là.
Oui, et en tout cas, ça reste le plus large succès de l'histoire de l'AS Monaco en championnat. C'était le troisième match de ta liste, Daniel. Vous écoutez les matchs de ma vie, le podcast de Bein Sport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué. On arrive au match numéro 4 de Daniel Bravo, le beau gosse, le petit prince du football français, élu joueur le plus élégant du tournoi de Toulon en 1983, pas moi. Et joueur le plus élégant, Daniel, ça a dû te faire plaisir à l'esthète que tu es. L'esthète.
Ouais, je ne me rappelle même pas. Oui, on me disait souvent je lisais dans la presse que j'étais élégant. Moi, mon idole d'enfance, c'était Johan Cruyff. Mm-hmm. Et je pense que ce qui caractérisait Cruyff, c'est l'élégance. Quand on le voyait, c'était fluide, c'était un peu un cheval fou, quoi. C'était, quand il courait, c'était magnifique. C'était vraiment un athlète avant d'être un super joueur. Et donc, bon, peut-être par mimétisme, j'ai peut-être essayé de lui ressembler un peu. Et c'est vrai que souvent, on m'a donné cet adjectif ou là, d'élégant.
Tu avais une certaine idée de ce qu'était le beau jeu. Tu avais des envies de jouer d'une certaine façon, quoi.
Ouais, ça, ben, on, c'est aussi l'éducation, hein. Moi, mon père, il a toujours été, il m'a toujours focalisé sur la technique et sur le beau jeu, quoi. Et puis, c'est un peu même l'essence du foot, je dirais, que de marquer des buts. Et marquer des buts, c'est... on peut bien jouer, marquer des buts. Quand on parlait à l'instant du 9-0, à Monaco, ça joue au ballon et on était efficace. Donc après, moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est ce qu'a dit Guardiola. J'ai lu un long interview de Guardiola qui disait « Il n'y a pas de bons ou de mauvais entraîneurs, il y a des entraîneurs courageux ou peureux. » Et ça veut dire que vouloir jouer, avoir l'intention de jouer, c'est être courageux de la part de l'entraîneur. Et c'est ce qui change tout, en fait. Mais c'est l'essence pour moi, c'est l'essence du football. C'est jouer pour gagner, c'est construire ce qu'on va, sa victoire, et essayer de le faire de la meilleure façon possible. Et en plus, quand on joue au ballon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend du plaisir. Et le plaisir, ça n'a pas de prix quand on est joueur de foot. On n'est pas là pour... l'entraîneur, il vous dit, on va défendre... On va être costaud tout le match ou ça, mais vous sortez du match, même si vous avez même gagné, vous êtes frustré parce que vous n'avez rien produit, vous n'avez rien produit, vous êtes là, tu dis, oh, on s'est fait chier, quoi, clairement. Quoi. Et quand on joue, on est heureux et on a envie que ça dure. Le match, ah, déjà, c'est fini, voilà, on aurait aimé continuer. Voilà, mais c'est ce qu'on aime.
Ce podcast est comme ça. C'est déjà fini? Non, c'est pas encore fini, les amis. On est avec Daniel Bravo, rien à voir avec Christine, mais papa de Luca, star de cinéma et de la série télé Emily in Paris pour les fans. On revient sur ta liste, Daniel, et pour ton quatrième choix. Nous sommes le 17 septembre 1988. Tu es de nouveau joueur de l'OGC Nice. Et ce jour-là, tu vas inscrire un triplé contre le Racing Club de Lens au Stade du Ray. Pourquoi tu choisis ce match-là?
Ben, j'ai choisi ça parce que pour équilibrer un peu, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Paris, on a parlé de Monaco aussi, et Nice, c'est un club qui a compté pour moi, c'est mes débuts. Bon, j'en ai parlé un peu au début, parce que quand j'étais au centre de formation, c'est le fameux tournoi de Cannes. Mais voilà, c'est Nice, c'est mon deuxième passage quand je reviens après Monaco, et ça correspond à une saison réussie, où on avait une super équipe, on marquait beaucoup de buts, on était un peu moins bon défensivement, mais il y avait Bokande, Enduro, Djelmas, Esner, le papa d'Esner, ah oui. L'entraîneur, qui était un super défenseur, un super mec. Voilà, il y avait, on avait Jean-Philippe Rohr au milieu, il y avait de très bons joueurs, et Ladaoui. Et cette saison-là, je marque 15 buts, et notamment un triplé contre Lens, qui reste marquant, parce que marquer un triplé, c'est assez rare, quoi. C'est vrai que j'ai marqué pas mal cette saison-là, mais un triplé, je crois que c'est le seul de ma carrière. Ça m'a marqué, et c'est pour souligner aussi, voilà, mon amour pour ce club de l'OGC Nice. Hein. Et cette saison-là, où on finit à 2 points de l'Europe, et je pense qu'on aurait pu y accéder, il manquait 3 fois rien. Après, cette équipe-là, elle a explosé parce que on n'est pas européen et qu'il y avait quand même des gros salaires. Et que finalement, c'est là où je pars à Paris. On ne m'a même pas demandé mon avis, quoi. C'est-à-dire, tu pars, il faut faire rentrer des sous dans les caisses. Ah oui. Après, je ne dis pas que je suis allé à Paris à contre-cœur. C'était Paris, le Paris de Sujic, etc. Ouais. Mais je n'ai pas eu mon mot à dire. Bon, on ne m'a pas dit, Daniel, on veut que tu prolonges. Et peut-être c'est ce que j'aurais fait parce que j'étais tellement bien à Nice. Mais on ne m'a pas donné le choix. Il faut que tu partes. Et c'est aussi le côté joueur que je souligne là, parce que on dit toujours que on pense toujours que les joueurs sont des mercenaires, mais il y a des moments où on les fait partir et où ils ont rien demandé, en fait.
Oui, c'est quand même fou quand on y pense. Hein.
C'est le foot, ça a toujours été quand même un business, hein, qui est plus gros aujourd'hui, mais avant aussi, il fallait faire entrer de l'argent dans les caisses, hein, et il y avait des moments où les gens ne savaient pas trop que parce que le joueur ne parlait pas, que lui, il souhaitait rester, mais qu'on lui a demandé de partir.
Ouais, tu arrives au boulot et on t'a vendu à,
ouais, voilà.
à Club X.
Ben, c'est ça.
Salut.
C'est wow. ça. Mais même déjà la première fois, Mario Innocentini, le pauvre qui est décédé, qui était un super président, mais quand il m'a vendu à Monaco, il m'a convoqué dans son bureau et il avait mon salaire sous les yeux et il me disait, mais tu vas pas refuser quand même tant. Il me vantait le salaire que j'avais et tout. Ouais. Mais tu vois ce qu'il te donne. Tu as vu ça? Tu vas pas refuser ça quand même.
C'est quand même dingue.
Ouais.
Donc, tu n'as pas refusé, effectivement. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Daniel, bravo. Nous sommes le 14 septembre 1994 au Parc des Princes pour un match de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Victoire 2-0 pour l'équipe d'Arthur Georges. Et pourquoi cette rencontre-là, Daniel?
Bon, je dirais que si tu m'avais demandé de choisir un match, j'aurais pris celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui qui correspond à ma résurrection au Paris Saint-Germain. Parce que je jouais attaquant avant cette saison-là, qui a eu le changement d'entraîneur. Arthur Georges a été remplacé par Luis Fernandez. Mm-hmm. Et que Luis, juste avant, au premier tour, enfin un tour préliminaire, on joue contre VAC, on se qualifie. Et il m'avait déjà mis milieu défensif. Il m'avait demandé si ça me disait de jouer à la place de Paul Le Guen. Il m'a dit, Paul, il me ralentit le jeu. Est-ce que tu veux jouer là? Je dis, oui, je veux bien. Et donc, premier match à VAC, je sais pas, je pense que c'était aller-retour. Et je jouais milieu défensif, ça se passe plutôt bien, mais je vois que la presse ne comprend pas. Il dit bravo dans un rôle plus bas, là, bizarre et tout. Et je crois que ce match contre le Bayern, c'est le premier match de poule de Ligue des Champions au Parc. Et grand Bayern, Georges Weah marque le premier but. Et moi, je marque le deuxième sur une volée. Je me rappelle un ballon touché sur un centre, sur un corner. J'arrive de derrière. Bon, je volais du gauche, but. Je marque Oliver Kahn.
Ouais.
Et là, je fais un très bon match. On bat le Bayern 2-0. C'est une campagne où on fait... je crois qu'il y avait le Dynamo de Kiev, le Spartak Moscou. On gagne tous les matchs. On gagne les 6 matchs. Et on lance la campagne où on fait demi-finale, on perd contre le Milan AC. Et en fait, ce match-là, voilà, c'est le match où je montre que je peux être bon à ce poste-là, où j'en sors plus et qui me permet derrière de gagner la Coupe des Coupes l'année d'après avec Paris et de partir ensuite à Parme. Parce que je suis resté évidemment milieu défensif. Et c'est vrai que beaucoup d'observateurs... Platini, Giresse m'ont dit « Ah, mais t'aurais dû jouer là plus tôt, enfin, c'était ta place. » Ce que je ne partage pas vraiment, hein, parce que je pense qu'au début, j'étais quand même attaquant, mais c'est vrai que le fait que Luis me redonne ma chance dans ce rôle-là m'a sauvé, quelque part, m'a redonné une chance et a redonné un élan à ma carrière, et bizarrement, m'a fait aimer des gens, parce que le Petit Prince, tout ça... Le mec un peu facile, élégant, ça rendait peut-être les gens un peu jaloux, finalement. Et il n'y avait pas tant d'amour que ça. Il y avait beaucoup de critiques. Parce qu'ils croyaient que ce que je faisais, c'était facile. Alors que j'ai toujours été travailleur à l'entraînement. Et c'est justement le fait d'avoir toujours été un bosseur et aimé faire les footings, l'entraînement, tout ça, qui m'a permis d'être un bon milieu de terrain défensif parce que justement, j'ai su me montrer à la fois rugueux, gros volume de course, etc. Et c'était le travail d'avant qui m'a permis de réussir dans ce rôle-là, bien sûr avec une technique d'attaquant, comme après on a vu Pirlo, on a vu...
Oui, oui, effectivement.
C'était un peu le début des milieux défensifs techniques. Technique. Comme Pep Guardiola, Pirlo après, etc. Quoi.
Donc voilà, j'ai dit l'équipe d'Arthur Georges qui était juste avant sur le banc. Oui. Et Luis, c'est Luis donc, effectivement. Et Luis, il a vu ça en toi? C'était une discussion? Comment ça s'est fait qu'il t'a remplacé, il t'a remis là?
Comme j'ai dit, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, Daniel, ouais, Paul, il me ralentit le jeu là, avec ses crochets là et tout, j'en peux plus. Est-ce que tu veux jouer là? J'ai dit, ouais, moi, je joue remplaçant. J'ai vu l'opportunité d'être titulaire.
Oui,
hein,
oui.
L'important pour un joueur,
mais
c'est d'être sur le terrain.
Il m'a donné but, je joue, ouais.
Voilà. Et puis bon, je savais que je pouvais, parce que c'est vrai que le fait d'avoir perdu confiance un peu, comme attaquant, tu as besoin d'être en confiance. J'avais un jeu un peu de dribbleur assez imprévisible et tout. Quand tu commences à te poser des questions, c'est fini. Tes dribbles, ce n'est plus les mêmes. Donc, à l'entraînement, j'ai compensé par plus de courses, plus d'agressivité. Et Luis, il a très bien lu ça. Mm. Et il a vu que je pouvais jouer là. Et en effet, dès qu'il m'a mis, ça s'est super bien passé.
Excellent. Comme quoi, hein, il a l'œil, hein, Luis.
Bien sûr, il a l'œil.
Il voit,
Luis. Je
sûr.
Lui dois beaucoup.
Bien sûr.
Je le remercie.
Et ça, c'est formidable parce qu'effectivement, ça te relance complètement pour la suite de ta carrière. Tu avais signé 7 ans au Paris Saint-Germain quand même. Et donc,
non, je n'avais pas signé 7 ans, j'ai fait 7 ans.
Tu as fait 7 ans, ah, dans un
j'avais
premier temps.
Signé, ouais, j'avais pas signé 7 ans.
Mais tu fais 7 ans. Raconte, pour commencer sur cette histoire, quand tu montes à la capitale et tu découvres la vie parisienne, ça change ta vie beaucoup ou pas?
Pas trop, parce que c'est un fantasme aussi. À l'époque, c'est pas comme maintenant. Maintenant, beaucoup habitent à Paris ou en tout cas proche de Paris. Mm-hmm. Nous, on habitait beaucoup, on s'entraînait à Saint-Germain-en-Laye et tout le monde habitait là-bas. Hein. Personne n'habitait ici. Donc, c'est plutôt une vie de campagne. Hein. Tu habites dans la forêt là-bas, on joue au golf, Saint-Nom-la-Bretèche, enfin tout ça, c'est, oui. C'est chouette. Et on super tranquille avec la possibilité, oui, après les matchs, de faire la fête un peu à Paris, mais pas plus qu'ailleurs. Oui, à Paris, le piège, c'est quand tu es joueur de Paris, tu es sollicité, on t'invite beaucoup. Mm-hmm. Si tu refuses les sollicitations, on t'invite plus et ça va, tu vois. Mais tu as l'opportunité aussi, après, de vivre, d'aller justement visiter Paris, parce que Paris, c'est une ville magnifique, peut-être la plus belle du monde. Mais moi, ça ne m'a pas posé de problème. Au contraire, je trouve qu'à Nice, Nice aussi, hein, il y avait beaucoup de tentations. La mer, l'été, il y avait des joueurs qui arrivaient avec du sable dans les pieds à l'entraînement. Hein, ils avaient fait un footy volé juste avant. Tu vois, c'est une autre vie. Mais non, Nice, Paris, pour moi, c'était tranquille.
Hein. Toi qui aimes le beau jeu, tu étais entouré de beaux joueurs aussi à Paris Saint-Germain. À cette période-là, il y en avait pas mal d'artistes.
Oui, à Paris. Bon, déjà à Nice, je voudrais citer, à mes débuts, j'ai joué avec Bjekovic. Je ne sais pas, ça remonte vraiment loin, mais c'était un joueur ultra complet, un avant-centre. Très mobile, qui courait vite, qui frappait des deux pieds. Tu faisais une séance de volée avec lui, c'était le rêve, quoi. Il frappait des deux pieds, il cadrait toutes les frappes. C'était du très, très haut niveau. Après, oui, j'ai joué avec Amoros, avec Bellone, à Paris avec Rai, avec Ginola, avec Ouéa, avec Valdo. Même les défenseurs, hein, quand tu joues avec Lama, tu joues avec... avec Ricardo, avec Alain Roche, en fait, tous mes partenaires parisiens, si on a fait des belles épopées européennes, c'est pour quelque chose, c'est qu'on avait une grosse équipe. Et même quand j'ai relu dernièrement, on a parlé de l'élimination justement du Real de l'époque, et il y avait un joueur du Real qui disait qu'il ne s'attendait pas à ce que Paris soit aussi fort. À l'époque, il s'imaginait jouer une petite équipe. La France, on n'a jamais eu une très grande réputation en Europe. Et en fait, sur le coup, c'était un des défenseurs, je ne me rappelle plus lequel, du Real, qui disait, mais on a été vraiment très surpris du niveau de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que bon, ils sont passés à trappe, quoi.
Oui, on a parlé des
après, cinq... à part, moi, j'ai joué avec Lilian Thuram, avec Cannavaro, oui. avec Gigi Buffon. Avec Chiesa, Crespo, enfin voilà, des grands joueurs aussi.
Oui, tu étais bien entouré là-bas aussi à Parme, effectivement. Oui, on n'a pas eu le temps de parler d'Italie, ni de tout ce que tu as gagné avec le Paris Saint-Germain. Il y a des matchs mémorables aussi, comme cette élimination, quand vous allez battre le Real 4-1 avec le but de Comboiré. Ouais. La fin, là aussi, Daniel, tu as dû vibrer. La finale de la Coupe des Coupes aussi.
Oui, évidemment, il y a plein de... Voilà, ces matchs-là. Bon, j'ai pris des matchs qui m'ont surtout... marqué et où j'ai peut-être marqué aussi, parce que contre le Real, je me rappelle, j'étais remplaçant et je rentre, et c'est vrai que ma rentrée, en toute modestie, je pense qu'elle est assez déterminante. Oui. Et je me rappelle qu'il y a un truc qui est passé inaperçu, c'est que j'ai fait une tête sur la barre et elle est retombée derrière le gardien et elle est ressortie.
Ah oui.
Ouais. Et malheureusement, j'aurais pu être un peu plus reconnu encore à Paris si j'avais marqué ce but-là, mais ça m'a pas souri. En tout cas, on me parle toujours de la remise pour David.
Pour David Ginola, avec
voilà, ce but-là, voilà, c'est un geste, mais pour moi, tellement logique que c'est surtout le match, l'importance du match qui fait que ça reste un geste important. Mais bon, le meilleur geste, c'était quand même la demi-volée de David.
Et puis, il y a aussi Valdo.
Ouais, le but de Valdo. Le match qu'on fait, la tête d'Antoine, bien sûr, mais c'est tout dans ce match, le scénario du match où on se prend ce but juste avant, on se fait égaliser là,
oui.
qui fait qu'on s'est dit, ouais, on va repartir en prolongation, mais on avait la victoire, la qualif dans les mains. Là, mais après, boum, finalement, je ne sais pas, combien d'arrêts de jeu. Là.
Ouais, ça a dû être, c'est la dernière action du match.
Ouais.
Formidable. Enfin, voilà. Donc, champion de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue.
Ouais, trois Coupes de France, j'ai eu la chance. La Coupe de France, ça a compté. Une avec Monaco, deux avec Paris. La Coupe de France, c'est magnifique. Quand on arrive à gagner, j'en ai perdu une avec Monaco contre Metz. Quand on arrive en finale, en général, les finales, il faut les garder, les gagner, parce que j'ai joué aussi avec Marseille, la finale de l'UEFA.
Oui, 99.
En 99, et on l'a perdu contre Parme. Bon, Parme, je pense, était injouable cette année-là, mais on a quand même fait une finale. On a fini deuxième en championnat, et je pense que cette année-là, on devait gagner quelque chose. Et si on devait gagner quelque chose, c'était plutôt le championnat.
Oui, cette saison-là a été splendide.
Là aussi, quand on parle de joueurs, Blanc, Dugarry, Ravanelli, Pires... Grosse équipe.
Il y avait du talent, ouais. Effectivement, ouais. Encore une fois. Tu as aussi champion d'Europe en 84, on n'a pas parlé de ça.
Ouais. Alors ça aussi, bon, pour moi, c'est parce que pour moi, j'étais un peu sparring partner de Platini, quoi. J'ai joué un quart d'heure dans la compétition, donc voilà, j'étais, c'est comme si tu m'avais dit, j'étais un spectateur privilégié, j'ai pas le sentiment d'avoir amené grand-chose, mais j'étais là. Ouais, c'est vrai, j'étais sélectionné, J'ai fait beaucoup de courses à fond romeu avec Platini chaque fois. Et c'est ce qui me reste souvent, beaucoup de ce truc-là. C'est ces moments avec Platini, notamment une fois, une anecdote où on faisait des courses un peu longues dans le bois et où j'allais plus vite que lui. Donc, il enrageait parce qu'il ne me battait pas. Quoi. Je gagnais toujours. Donc, il me disait, bon, Daniel, ça, on l'a fait doucement. Et donc, il essayait d'accélérer à la fin de gagner, mais il n'arrivait pas. Donc, après, il me disait, mais t'es un bourrin, toi. Je croyais que t'étais un technicien, mais en fait, t'es un bourrin. Il était énervé.
Et oui, parce qu'il ne veut jamais perdre. Il veut jamais perdre.
C'était un gagneur.
Extraordinaire. Et tu termines ta carrière à Nice aussi. C'est pour boucler la boucle, en quelque sorte?
Ouais, exactement. Bon, je ne vais pas mentir et faire ce que font tous les joueurs pros. C'est qu'ils m'ont fait un contrat. Il y avait les Italiens à cette époque-là. C'était le patron de la Roma qui était propriétaire du club. Et j'ai eu un contrat de fou, quoi. Et en fait, c'est la faute de Roland Courbis. Je peux le dire aujourd'hui. Il m'en voulait parce que je suis parti comme un voleur, mais... Parce que il a pas su il voulait me baisser les primes que j'avais. J'avais pas un contrat mirobolant et j'avais des belles primes. Il m'a dit, bon, tu restes, mais je t'enlève les primes. J'ai dit, Roland, quand même, t'exagères. Il me dit, bon, c'est comme ça, si t'es pas content, c'est pareil. Bon, il pensait pas que je pouvais avoir des propositions. Et en fait, j'ai appelé derrière, j'avais vu que Primo Salvi, le président de Nice, disait, moi, je veux Daniel Bravo à tout prix, tout ça. Je l'appelle et je lui dis, président, je lis partout, qu'est-ce que c'est? Il me dit, je te veux à tout prix. J'ai dit, bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ben, donnez-moi 2 ans à temps, je viens. Ouais. Il me dit, d'accord. D'accord, il ne discute même pas. Je prends la voiture, je vais à Cannes, je vais signer direct. Le lendemain, Marcel Dib, il m'attendait pour signer à l'OM, pour prolonger mon contrat. Et j'appelle Marcel, je lui dis, Marcel, je ne viendrai pas parce que j'ai signé à Nice. Et alors lui qui était dirigeant, qui était directeur sportif, qui avait vu un coup, oui, Roland, il ne savait pas si je restais, je partais. Bon, j'avais 36 ans quand même. Et Marcel m'a dit, bon, mais t'as bien fait, il m'a dit, t'as bien fait.
Merci Roland.
Voilà, merci Roland. Bon, après, j'étais très bien à Marseille, hein, mais comme j'avais pas... voilà, Roland ne m'a pas donné satisfaction. Moi, je demandais juste qu'il me redonne ce que j'avais. Finalement, voilà, quand je dis je suis parti pour l'argent, oui, mais j'étais très content d'aller à Nice, Ligue 2. Pour moi, c'est vrai, la boucle est bouclée. Mmh. Je suis parti de Nice. Peut-être, j'espère qu'on va remonter en Ligue 1. J'avais signé 2 ans, j'ai dit on va remonter en Ligue 1. On avait quand même une belle équipe et tout. Bon, ça s'est pas fait, ça s'est mal goupillé. Il y avait vraiment trop de politique au club. J'étais un peu au milieu de tout ça. J'en ai subi les conséquences. J'en ai souffert aussi parce que voilà, mes prestations n'étaient pas à la hauteur et on m'a un peu utilisé aussi. Donc, c'est dommage. Ça s'est fini un peu en queue de poisson. Mais j'oublie pas que Nice, c'est pas ce moment-là. C'est les deux premières fois et ça reste un club dans mon cœur.
Et quand tu revois maintenant toute cette belle carrière, Daniel, les 800 matchs pro et toutes les compétitions que tu as gagnées, dans lesquelles que tu as joué aussi, quel est le sentiment qui reste ?
Le sentiment d'avoir fait ce que j'aimais, je dis toujours, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire moins bien, parce que la déception, c'est de ne pas avoir de Coupe du Monde, 13 sélections. J'ai pas réussi en équipe de France par rapport, je pense, au talent que j'avais. Je crois qu'en club, j'ai fait quand même de belles choses. J'ai gagné pas mal de titres, donc là, je suis satisfait. J'aurais pu faire pire, donc je suis très content. Et surtout, 20 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde de commencer à 17, de finir à 37. 800 matchs, même si j'ai pas fait tous titulaires, je peux dire que j'ai fait au moins 80 ou 90% de titulaires, c'est beaucoup. C'est une chance inouïe d'avoir pu faire de ta passion un métier, d'être payé pour ce que tu aimes. Faut le rappeler aux joueurs, quoi, qui se plaignent parfois. Parfois, ils disent, j'entends, il faut faire des sacrifices. Pardon ? Il faut faire des sacrifices de quoi ? De te coucher tôt et de manger sainement et de te préparer pour le match. C'est un sacrifice, ça. Donc voilà, restons sérieux et les gars, appréciez ce que vous faites parce qu'une fois que vous arrêtez, vous verrez, la vraie vie, c'est autre chose.
La vraie vie, c'est bosser avec des journalistes.
Et Darren, je dois reconnaître que je suis doublement chanceux parce que derrière, j'ai eu la chance de faire consultant et que là aussi, c'est pas encore la vraie vie. J'ai de la chance.
Oui, effectivement, on a la chance.
Et de travailler avec des gens comme toi.
Ah, merci.
Et Christophe Jols, bien sûr, que j'embrasse.
Nous, on a la chance de t'avoir avec nous et de profiter de tout ce que tu as vécu et tout ce que tu nous apportes. Donc, merci déjà pour tout ça. Merci d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces moments de vie avec nous.
Merci Darren, on a le temps. Hein. Je ne sais pas si tu vas couper parce que j'étais très bavard. Mais c'est vrai que replonger dans ces souvenirs comme ça, c'est rare. Et ça prend aux tripes.
Franchement, c'est toujours un plaisir d'écouter ces souvenirs, ces anecdotes. Et on est collègues, on se voit tout le temps, mais effectivement, rarement on s'assoit comme ça pour aller dans le détail.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce qu'après, il y a aussi de la pudeur. On met pas toujours en avant ce qu'on fait. Oui. On est plus superficiel dans les relations qu'on a, même si on passe de très bons moments ensemble. C'est vrai que ce sera l'occasion pour certaines de découvrir que j'ai été joueur de foot et que j'ai fait quelque chose. Quoi.
Avant d'être sur Bein avec nous. Merci encore Daniel, on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir et pourquoi pas sur Bein Sport pendant qu'on y est. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous pouvez aussi en parler sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. Et si vous voulez nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes, eh bien, n'hésitez pas. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.
Tous les matchs de ma vie. On nous laisse ici.